La suffisance de la parole de Dieu. Un terme important dans la théologie chrétienne est la révélation. Nous affirmons que le christianisme est une religion révélée. Laissez-moi vous expliquer un peu. Hébreux 1, le premier verset dans les feuilles que Dieu vous a apportées, nous dit « Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. » Il est là, Dieu s'est révélé, et dans l'Ancien Testament, il l'a fait par divers moyens, tels que des déclarations verbales, des apparitions personnelles, des symboles spéciaux, etc. Et par de nombreux hommes saints, comme le dit Pierre, saints hommes de Dieu ont parlé en étant inspirés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi notre confession de foi baptiste affirme dans son premier chapitre qu'il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières de faire connaître sa volonté à son Église. Et c'est précisément ce dont parle le psaume 19, que Dieu s'est révélé de deux manières principales. Le premier est ce que nous appelons la révélation générale. L'autre, évidemment, c'est la révélation spéciale. Permettez-moi donc d'abord de mentionner la révélation générale. Et c'est exactement ce que le psalmiste David commence par énoncer dans les premiers versets du psaume 19, verset 1 jusqu'à le verset 8. Ou 7, ça dépend de la version de la Bible qu'on a. Au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue de manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Leur ressentiment parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il adresse une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité dessus, et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. La Bible nous dit que Dieu s'est révélé en général et principalement à travers la création et la nature. Paul a fait une déclaration très importante à ce sujet au peuple de l'Istre quand il a dit dans Actes 14, le deuxième verset. Le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, quoiqu'il ne cesse de rendre témoignage du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Aussi, on le trouve dans Actes 17, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre. Et Romains 1, 19 jusqu'à 22, on va lire ce passage. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Et ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, toutes ces déclarations nous rappellent que Dieu, après tout, a laissé ses marques, ses empreintes, dans la nature et dans la création. Les cieux sont l'œuvre de ses mains, comme le dit le psaume 19, verset 2. Ainsi, la création dans son ensemble, elle est même une révélation de Dieu. Donc, la révélation générale est alors l'acte divin par lequel Dieu se révèle continuellement à tous les hommes à travers les choses qu'il a fait. Il est appelé général à la fois parce qu'elle est donnée à tous les hommes. C'est par toute chose faite et elle est donnée à tout moment. Aujourd'hui, on a vu la pluie tomber sur la terre. Ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu aussi, à tous les hommes. Elle est appelée générale pour la distinguer de la révélation spéciale. Et de cette révélation générale, nous parle dans les premiers versets du psaume 19, où nous parle du fait que Dieu s'est révélé dans la création. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Qui ne conclurait pas en voyant les cieux que Dieu est toujours glorieux? Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, le jour, la nuit, tout dans la création de Dieu est une déclaration de la puissance de Dieu. Il est révélé dans sa création et on voit dans toute la vie consciente qui existe sur cette terre que Dieu est un grand créateur. Et il nous a beaucoup parlé de lui-même dans sa création, de sa puissance et de son dessein et de son ordre, de son intelligence, de sa sagesse, et bien plus encore. Par exemple, on lit dans le numéro 4, Romains, nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Donc, dans le psaume 19, le psalmiste utilise une illustration du soleil. Le soleil s'élevant à une extrémité dessus et son parcours à l'autre extrémité de la terre sans que rien ne puisse se cacher de sa chaleur. Ce qui indique clairement la grandeur et la puissance de notre Dieu. Dieu est donc lui-même exalté dans la nature. Il s'est révélé dans la nature, comme le dit Romains 1, que nous avons lu. Nous pouvons connaître sa puissance et sa divinité éternelle. C'est-à-dire qu'il est le Dieu souverain et qu'il est puissant. Et pourtant, quelle est la réponse que l'incroyant donne à la révélation générale? Romains 1, verset 20 nous dit, on va lire encore, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu à travers la création, la révélation générale, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, les cieux déclarent la gloire de Dieu et proclament sa sagesse, sa puissance et sa bonté, de sorte que tous les méchants sont laissés sans excuse. Mais les hommes ne glorifient pas Dieu comme Dieu, ni les remercient. Ils sont perdus dans leur raisonnement, ils sont devenus des imbéciles Ils ont embrassé les mensonges. Ils refusent de reconnaître Dieu et leur esprit devient un esprit réprouvé. Ils deviennent des idolâtres, des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Nous pouvons alors le résumer comme suit. Les preuves fournies par la création de Dieu sont suffisantes pour laisser l'homme sans excuse. Mais puisque l'homme est dans le péché, il ne suffit pas pour le conduire à une connaissance salvifique de Dieu. C'est ce qui affirme notre confession de foi au chapitre 1 des Saintes Écritures. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est ça que dit notre confession de foi. Et c'est biblique ça. Dieu révèle constamment à toute l'humanité son être et ses attributs fondamentaux à travers la révélation de ce qu'il a créé. Personne n'a d'excuse pour ne pas adorer le Seigneur. Cependant, la nature ne transmet pas les messages du salut. La nature, elle condamne justement l'homme pour ne pas glorifier Dieu, mais ne montre pas les remèdes. La question est donc, y a-t-il un espoir pour l'homme, pour nous? Et la réponse se trouve à partir du verset 8 du psaume 19. La révélation spéciale de Dieu dans sa parole est le moyen de grâce qui révèle le merveilleux remède pour la condamnation de l'humanité déchue. Les saintes écritures sont plus précieuses que l'or et plus sucrées que le miel. Nulle part ailleurs nous n'apprendrons que le Seigneur est le rédempteur des pécheurs. Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La révélation spéciale que nous trouvons dans la Bible a un but très différent et concret qui est de nous révéler le caractère de Dieu tel qu'il nous est montré dans sa grâce salvifique en Christ. Il nous montre comment connaître Dieu, comment être aimé par lui et recevoir sa bénédiction. Il nous apprend à connaître Dieu dans son sens personnel, à nous rapporter à lui, à vivre sous son regard et sous sa garde, à l'aimer et à lui plaire et à le servir toute notre vie. Alors, passons au psaume 19, verset 8. Écoutons les témoignages de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Elle rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Dans ce psaume 19, commençant au verset 8 et allant à la fin du chapitre, j'ai vu que vous voyez trois aspects ou perspectives spécifiques. La première perspective qu'on va voir, c'est la suffisance des Écritures. Versets 8 jusqu'à 10, ça serait notre premier point. Deux, la valeur de l'Écriture, versets 11 et 12. Et trois, la bonne réponse, versets 13 jusqu'à 15. C'est ce que nous voulons voir, mais on ne va pas voir tout aujourd'hui. Commençons donc par regarder notre premier point. La suffisance des Écritures pour la foi, la vie et la piété. Alors, Pour commencer à expliquer notre premier point, je veux que nous remarquions que dans les versets 8 jusqu'à 10, nous trouvons ce qui suit. Nous trouvons 6 titres pour l'écriture, si vous pouvez les regarder. C'est quoi les 6 titres qu'on voit dans le passage? La loi de l'Éternel, les témoignages de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les jugements de l'Éternel. Ce sont des 6 titres pour l'Écriture. On retrouve aussi, lié à ces titres de la parole de Dieu, 6 caractéristiques qui lui sont assignées. Quelles sont? Est parfaite, verset 8. Est véritable. Sont droites. Sont pures. Pures. Subsistent à toujours. Amen. Et enfin, c'est aussi attribué à la parole de Dieu 6 bienfaits. Quels sont-ils? Restaure l'âme. L'autre, rend sage l'ignorant. Réjouisse le cœur. Il s'éclaire les yeux. Subsiste à toujours. Sont tous justes. Donc, la parole de Dieu, elle convertit, rend sage, apporte la joie, illumine, purifie, est pertinente à tout moment, demeure éternellement et produit une justice complète. C'est magnifique. Ici, nous avons Dieu qui parle des gloires profondes de l'Écriture en brève déclaration. Voici le témoignage de Dieu parlant de sa parole et la pertinence de sa parole qui convertit l'âme, rend les simples sages, réjouit les cœurs, illumine les yeux, demeure pour toujours et ils sont tous justes. Cela couvre tout en quelques déclarations. Alors regardons la première déclaration. Verset 8, partie A. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure ou convertit, comme dit la version en anglais, aussi en espagnol, convertit l'âme. Comment s'appelle l'écriture ici? La loi de l'Éternel. Le terme loi signifie l'enseignement divin, la doctrine divine, l'instruction divine. Cela signifie que l'écriture est Dieu qui donne des instructions à ses créatures. Instruction ou doctrine divine en relation avec le salut, la vie et la conduite de l'homme devant Dieu dans son monde. C'est une explication complète de la volonté de Dieu pour la vie de l'homme et pour son Église. C'est la doctrine de Dieu et de l'Évangile qui sauve les âmes pour la gloire du Christ et le bien des pécheurs. Nous savons que l'expression « la loi de l'Éternel » ne se limite pas au décalogue ou 10 commandements. Nous ne nous tromperions pas si nous appliquions cette déclaration à l'Évangile qui est l'instrument spécial de Dieu pour convertir les âmes et que nous appliquions également à la pleine révélation du plan de la méthode de salut de Dieu que nous trouvons dans les Écritures. Si je veux savoir comment je dois être sauvé, je me tourne vers ce livre béni et j'y lis la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, par exemple. Je lis ici les propres paroles du Christ qui dit « Celui qui met sa confiance en lui, en Jésus-Christ, n'est pas condamné. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je lis ici l'histoire incomparable de celui en qui je dois croire. J'ai lu sur sa personne, son caractère, sa doctrine, son œuvre salvifique. Et cette loi de l'Éternel commence à opérer dans mon cœur par la puissance de l'Esprit de Dieu. Lorsque je la lis, l'écoute et m'y expose. Et cela ne change pas seulement mes actions internes, mais cela renouvelle mon esprit, modifie tous les sens et les buts de ma vie. Selon les mots de David, elle restaure ou convertit l'âme. Ma vie, qui un jour était dans la frénésie des plaisirs du péché, est purifiée par la grâce et ramenée au Rédempteur. N'est-ce pas vrai pour la plupart d'entre vous? N'aimez-vous pas cette loi sainte? Et quelle est la caractéristique de la loi de l'Éternel? Elle est parfaite, dit le Seigneur. Jacques l'appelle la loi parfaite, la loi de la liberté, exprimant la même idée. Maintenant, vous pouvez passer beaucoup de temps et d'énergie à rechercher de ce qui signifie le mot parfait. Vous pouvez consulter de nombreux lexiques hébreux et commentaires bibliques et après de nombreuses heures arriver à la conclusion que l'essence de parfait est parfait. C'est ce que cela signifie. Pas parfait par opposition à imparfait, mais parfait par opposition à incomplet. La parole de Dieu est parfaite et complète. C'est-à-dire qu'elle est complète. Le mot hébreu signifie de tous les côtés. Comme pour couvrir complètement tous les aspects de la vie. Il englobe tout. Il ne laisse rien dehors. Rien de ce qui est nécessaire pour glorifier Dieu, le salut, la foi et la vie pieuse. La loi de l'Éternel est parfaite. Il n'y a rien en elle, il n'y a rien qui puisse manquer. Et comme je l'ai mentionné, cela couvre tous les aspects de la vie, c'est pleinement suffisant, cela englobe tout, c'est complète, comme le dit notre confession de foi, encore. Tous les conseils de Dieu concernant toutes les choses nécessaires à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et la vie et à la vie, et ou bien expressement consigné dans l'Écriture sainte, ou y est contenu de façon nécessaire. Et quel est son travail ou son avantage? Il nous dit ici qu'il convertit l'âme. Le terme hébreu peut être traduit restaurer, raviver, récupérer, faire pivoter, transformer ou convertir. Cela signifie que c'est une transformation totale. Et il dit que ça transforme, ça convertit l'âme. Le mot âme en hébreu se réfère à tout ce que l'homme est, la personne intérieure, l'âme, le cœur, l'esprit, la volonté, les affections, en d'autres termes, tout ce que l'on est à l'intérieur, la personne entière. Et pourquoi la conversion de l'âme de la personne est-elle nécessaire? Parce qu'à cause du péché, chaque homme dans ce monde, naît, en commençant par le bébé qui est né il y a une minute, se trouve en inimitié contre Dieu. Et le péché a tout affecté à nous, la volonté, l'esprit, les sentiments, la conscience. Ainsi, la parole, par la puissance de l'Esprit de Dieu, a la capacité de sauver, elle a la capacité de régénérer, elle a la capacité de convertir, elle a la capacité de transformer toute la personne. C'est une déclaration puissante. Elle a la capacité de sauver, de régénérer, de convertir, de transformer grâce à la puissante œuvre du Saint-Esprit. Jacques, le verset numéro 5, Jacques 1,18 nous dit comme ça. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. C'est Dieu qui l'a fait parmi sa parole, à travers sa parole, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. L'idée est que la parole de Dieu a la capacité de transformer l'homme en une nouvelle créature. Convertir signifie retourner. Ainsi, la parole de Dieu ramène l'homme à Dieu sur le chemin de la vie et de la bénédiction. 2 Timothée 3,15 nous dit, Paul dit à Timothée, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Les Écritures, la parole de Dieu, peuvent vous donner la sagesse qui mène au salut par la foi en Jésus-Christ. C'est l'instrument de la conversion de l'âme à Dieu, la personne totale. L'apôtre Pierre le dit de cette manière. En Pierre, chapitre 1, verset 23, puisque vous avez été régénérés, écoutez, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes régénérés, renaissés, nous avons la vie par la parole qui vit et qui demeure pour toujours. Romains 10, 17 nous dit, déclare, ainsi la foi qui sauve, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, de Christ. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, mes frères, mes enfants, les enfants ici, les amis, il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, c'est d'entendre la vérité de Christ, de croire à la vérité de Christ. Et ça nous ramène à vivre la vérité du Seigneur. Et c'est pourquoi il est important que vous vous y exposiez et que vous y répondiez avec foi et obéissance. Et c'est pourquoi l'importance de la partager avec les autres. C'est pourquoi que Paul a dit, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non. Le salut vient par la parole. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, nous dit l'apôtre Paul. L'homme a son regard éloigné de son Créateur. Depuis le jour fatal où nos premiers parents ont brisé la loi de Dieu, nous sommes tous coupables du même crime grave. Nous sommes des êtres qui tournons le dos à la lumière et nous descendons sur les chemins qui mènent à la destruction. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être amenés à tourner dans la direction opposée. Car c'est le sens du mot conversion. Faire demi-tour et aller dans la direction opposée à celle qui nous allions. Notre texte dit certainement que la parole de Dieu nous fait tourner dans la direction opposée dans laquelle nous allions. Cela ne veut pas dire que la parole seule fait cela. Écoutez, cela ne veut pas dire que la parole seule fait cela en dehors de l'Esprit de Dieu. Car rappelez-vous qu'une personne peut lire la Bible d'un bout à l'autre 50 000 fois et pendant 50 ans et peut entendre de nombreux sermons bibliques. Et pourtant, ils ne vous feront jamais vous repentir à moins que l'Esprit de Dieu n'utilise la parole de Dieu. C'est-à-dire que il y a la nécessité, il y a besoin de la, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Mais lorsque l'Esprit de Dieu accompagne la parole, alors la parole devient l'instrument de la conversion des âmes des hommes. Tant que nous sommes aveugles, nous ne pouvons pas voir nos défauts, mais lorsque l'Esprit de Dieu vient à nous et nous révèle la loi de Dieu, et nous ouvre les yeux, alors nous percevons que nous avons violé tous les 10 commandements de Dieu, dans son esprit et dans son écriture. C'est pourquoi que nous devons demander au Seigneur, Seigneur, comme dit le psaumiste, dans le psaume 119, je vais le lire, verset 18, il a dit comme ça, l'Éternel, il a dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc, si on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, dans nos vies, pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu, ce que nous devons faire, c'est de demander au Seigneur, « Seigneur, donne-nous la sagesse, ouvre nos yeux, Seigneur. » Et donc, ainsi, la parole de Dieu dit à l'homme que par les œuvres de la loi, il ne peut pas être justifié. Lui dit que son cœur est corrompu, qu'il est lui-même déjà condamné pour avoir brisé la loi de Dieu. Et lui dit que peu importe ce qu'il fait ou combien il essaye, s'il ne cherche pas le salut à la manière de Dieu, il ne fera qu'empirer les choses. Et donc, la prochaine chose qui fait la parole de Dieu est de montrer à l'homme comment elle peut redresser son cours. Il vient vers l'homme et dit, « Votre péché mérite une punition. Dieu a accompli ce châtiment en son Fils et par conséquent, il est prêt à vous pardonner librement pour l'amour de Christ. Nous n'avons pour rien de bon en vous et tout ce que vous pourriez jamais faire, mais entièrement à cause de sa miséricorde imméritée. Il vous demande de vous fier à la suffisance de son Fils Jésus-Christ pour vous sauver. Alors, l'invitation c'est, venez et ayez confiance en ce que Christ a fait et continue de faire pour vous et croyez en la miséricorde de Dieu en Christ Jésus pour tous ceux qui ont confiance en lui. Et ainsi l'homme est converti. Parce que quand une personne ne regarde que Christ, elle tourne son visage vers Dieu. Maintenant, cette personne, elle a la confiance en Dieu et son amour pour Dieu grandit. Et maintenant, elle veut plaire à Dieu parce qu'il a été extrêmement miséricordieux en pourvoyant un sauveur. L'homme a été amené à se retourner de sa révolte contre Dieu. Il en est venu à ressentir une profonde gratitude pour son Rédempteur et il cherche à vivre pour la gloire de Dieu comme il n'aurait jamais pensé le faire auparavant. Donc il y a une œuvre dans son cœur et il a complètement changé. Et en étant que nouveau converti, vous recevez avec le salut de nouveaux goûts, de nouveaux désirs, vous avez la clarté que certaines choses étaient mondaines, ce sentiment qui vous a été donné et confirmé lorsque vous lisez l'Écriture, les Écritures, et lisez à propos du monde et comment les croyants sont appelés hors du monde, puis ils sont changés à leur goût mondain, sont enlevés. Puis ils sont changés et leurs goûts mondains sont enlevés et leur impudeur et leur appétit sexuel impur et vos mots salés et vos mots sales et votre égoïsme et votre ambition, tout ça sort de la vie du nouveau croyant et tous les divertissements qui sont distinctifs du monde et la musique et la danse et vous perdez le goût de tout cela. Toutes ces choses s'en vont de la vie de la personne convertie à Dieu. Un jour, vous avez aimé ces choses et à l'instant d'après, tout vous a été désagréable. Et le péché qui avait été votre ami est devenu votre ennemi désagréable. Et vous avez mis ces choses de côté, vous avez mis tous ces péchés de côté. Maintenant, tu es différent. Et puis, après avoir lu la Bible, où il est dit que l'amitié du monde est inimitié envers Dieu. Si donc quelqu'un veut l'être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Ainsi, vous comprenez maintenant que dans votre cœur, et à partir de la parole et par l'Esprit de Dieu qui habite en vous, vous devenez une personne différente, appelée hors du monde. Divertissement mondain, cupidité, vivre pour soi, vivre pour le plaisir, tout ça a été mis de côté. Musique mondaine, tenue immorale, action immorale, boisson et drogue, et ces dégradations dont vous pensiez ne pas pouvoir vivre sans, maintenant tout cela vous êtes désagréable, et maintenant que vous êtes un croyant, vous vous en êtes repenti et vous les avez quittés parce que vous comprenez ce que le Seigneur dit, n'aime pas le monde, rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Vous n'avez pas le choix parce que le Seigneur vous avait transformé. La loi de l'Éternel est parfaite et convertit l'âme. Plus vous vivez longtemps et plus vous le testez, plus vous les confirmerez. Quand les hommes s'égarent, c'est parce qu'ils s'éloignent de la parole de Dieu, et dans la mesure où ils sont maintenus sur la bonne voie, c'est parce qu'ils absorbent la précieuse vérité concernant Jésus telle que révélée dans la Bible, comme le dit l'ancien prédicateur. C'est le seul livre parfait au monde, et il vous rendra parfait aussi. Si vous voulez vous soumettre à sa sainte influence, soumettez-vous simplement à cela, et un jour vous deviendrez parfait et vous serez transporté jusqu'à habiter où le Dieu parfait qui a écrit le livre parfait vous révélera la perfection de la félicité pour toujours et à jamais. Que Dieu nous accorde, chers frères et sœurs, de connaître la puissance de ce livre transformateur. Et si l'un d'entre vous s'est révélé, j'ai prié pour que le puissant Esprit de Dieu vous ramène à travers son livre. Ceux qui continuent dans la rébellion doivent obéir à l'appel de l'Esprit de Dieu et honorer le Fils avant qu'il ne soit trop tard. Donc, numéro 1, la loi de l'Éternel est parfaite et nous redonne vie. Et ensuite, David dit, verset 8, partie B, dans le psaume 19. Le témoignage de l'Éternel est véritable ou fidèle, il rend sage l'ignorant. Quel est le titre donné à la parole de Dieu dans ce cas? Le témoignage. La parole est un témoignage de Dieu, de qui il est, de ce qu'il exige de l'être humain, ce qu'il exige de chacun et chacun de nous. C'est sa révélation de lui-même, c'est son propre témoignage. C'est Dieu qui découvre qui il est, sa nature et sa volonté. C'est le propre témoignage de Dieu, ce qui est vrai de lui-même. De ce qui est vrai de lui-même, de l'homme et de tout le reste. Lorsque vous lisez les Écritures, mes frères, vous apprenez à connaître Dieu, c'est le témoignage même de Dieu, sa propre révélation de lui-même. Je comprends que le mot témoignage signifie la révélation de lui-même que Dieu nous a donnée dans sa parole. Il témoigne de sa propre paternité, de son adoption dans sa famille, de tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Il témoigne de tous ses attributs révélés dans la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il témoigne de son amour éternel et de sa fidélité à chaque promesse qu'il a faite à ses élus. Il témoigne de bien des choses que nous n'aurions jamais pu découvrir de la nature seulement. Et tout son témoignage est véritable ou fidèle. Qu'est-ce que cela signifie? Véritable ou fidèle? Ça ne bouge pas. C'est sans erreur. C'est fiable. En une phrase digne de confiance. L'apôtre Pierre a déclaré que c'est la parole la plus sûre et certaine. Plus sûre que les signes, les merveilles, les miracles. En Corinthiens 1 nous dit que le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu. Il ne peut pas atteindre la vérité divine, la vérité spirituelle, la vérité éternelle, en dehors de la Bible. Ainsi, le témoignage même de Dieu est absolument fiable. Vous pouvez faire confiance à toutes ces déclarations, à tous ces principes, à toutes ces promesses. Ce témoignage est fidèle parce qu'on peut lui faire entièrement confiance. L'ignorant et le non-instruit, en croyant ce que Dieu dit, devient sage pour le salut. C'est une direction sûre sur la voie du devoir. C'est une source sûre de consolation vivante et un fondement sur d'espérance éternelle. Quel est l'avantage de ce témoignage de Dieu? Le passage nous dit, transforme les ignorants en sages. Transforme les ignorants, les simples. Et je vais utiliser ce mot parce que c'est un mot correct aussi. Simple. Vous savez quoi? Être simple, ignorant, que c'est la même chose, n'est pas une vertu dans la Bible. L'individu qui est simple dans la Bible est une personne sans discernement, un novice, une personne qui ne comprend pas. Le mot ici simple ou ignorant, en hébreu, est celui qui signifie idiot. Il se réfère à une personne séductible, un ignorant. Et vous savez autre chose? Ce mot simple vient d'une racine qui signifie une porte ouverte. Une porte ouverte parce qu'une porte ouverte ne fait pas de discrimination. N'est-ce pas? Si la porte est ouverte, tout entre, tout sort. Il n'y a pas de discrimination. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Eh bien, j'ai l'esprit ouvert. Eh bien, fermez-le. » Parce que vous devez décider quoi laisser entrer et quoi laisser sortir. Avoir l'esprit ouvert n'est pas une vertu, c'est un pas vers pour devenir un maladroit. Donc, il est simple être ouvert d'esprit généralement dans un sens mental ou moral, étant prudent. Alors, il a l'idée d'ouvrir une porte et de la laisser ouverte. Un individu simple est celui qui laisse tout entrer et ne sait jamais quand fermer la porte. Il ne sait pas quoi rejeter, ni quoi retenir. Il n'y a pas de discernement. Il manque de connaissances. Ce sont des novices, des néophytes. Ce sont des enfants. C'est comme ça que sont nos enfants. C'est pour ça que notre Seigneur nous a donné en tant que Père, que parrain. Une porte ouverte ne fait pas de discrimination. Si la porte est ouverte, tout entre, tout sort, il n'y a pas de distinction. Votre maison n'est pas avec la porte ouverte tout le temps, vrai? C'est vrai? N'est-ce pas? Vous ne vivez pas avec votre porte ouverte et vous n'accueillez pas tout le monde. Vous seriez imprudent de faire ça. Vous êtes celui qui discerne quand vous l'ouvrez et quand vous fermez la porte, n'est-ce pas? Et c'est une excellente analogie pour l'esprit. Le mot simple signifie naïf, qui n'y discerne pas, qui n'est pas informé. Et savez quoi? Une grande majorité des chrétiens, mes frères, dans quelques églises évangéliques d'aujourd'hui, se caractérisent pour cette description. Ils sont simples, ignorants, tout y passe, toute absurdité d'enseignement, de doctrine, et personne ne pose des questions. Pas vrai? En d'autres termes, il n'y a pas l'attitude de Jean de Béréa, qui avait du discernement, qui n'ont pas ouvert la porte et laissé tout entrer. Non, ils ont tout filtré à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu donne le discernement, la sagesse aux novices, aux simples. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans quelques églises chrétiennes, c'est que beaucoup disent « Amen à tout ». Même si ce qui est proclamé est un non-sens monumental. Même si ce sont des absurdités simples, ils ne sont pas comme les gens de Béréa. Où est le discernement? Sommes-nous simples, ignorants, novices, sans discernement? Frères, l'Église, vous et moi ne devons pas rester dans cet état. L'Écriture prend les novices, l'inexpérimentés, celui qui manque de compréhension et leur donne la sagesse dont ils ont besoin pour plaire au Seigneur, vivre pour Christ. Vous êtes-elle rendu sage et expert la parole de Dieu? Ou êtes-vous encore une personne simple, sans connaissance et sans discernement des vérités fondamentales de la foi chrétienne? Examinez-vous et testez-vous à la lumière de cette réalité. Le témoignage de l'Éternel est véritable et fidèle. Il rend sage l'ignorant. Pour finir, je voudrais dire ce qui suit. On dit que sur le portique d'une des académies d'Athènes est écrit « Quiconque ignore l'arithmétique ne peut entrer ici. » Mais sur le portique de la parole de Dieu est inscrit « Quiconque ignorant est ici le bienvenu. » Le témoignage de l'Éternel est plein de sagesse divine. Et pourtant, il est exprimé dans un langage si clair que même les enfants peuvent le comprendre. Alors, les simples vont à lui pour être rendus sages. Et souvent, ce qui est caché aux sagés et aux prudents est révélé aux enfants, car c'est ainsi que cela plut à Dieu. Jésus, il dit, « Je t'ai lu, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je t'ai lu de ce que tu l'as voulu ainsi. » Donc, je comprends que la parole de Dieu, tout d'abord, m'enseigne comment mon âme peut être convertie. Verset 8, partie A. Et puis, ayant été converti, je viens à ce livre béni dans un but très différent. Je ne le fais pour découvrir comment je dois être sauvé, mais pour apprendre plus de choses sur la vie, dans la foi et la piété, et comment vivre pour plaire à Dieu. Cela rend mon âme simple et sage, la sainte, la simplicité, et me rendant sage selon les dieux. Le dernier passage nous dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Quelle merveille de ce que fait la parole de Dieu! L'un don que le Seigneur pour sa parole est son esprit qui nous a convertis et qui nous a rendus sages à lui. La parole suffit donc pour nous donner le salut et la capacité de vivre dans la sagesse de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole en chacun de nous. Amen. Notre Père Céleste, merci Seigneur pour ta parole précieuse. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Aide-nous, Seigneur, à la lire, l'écouter, Seigneur, l'étudier aussi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans ta parole, dans tous les aspects de notre vie. Merci parce que tu nous as convertis à toi, Seigneur, à travers les témoignages de ta parole, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur, et qui nous donne la sagesse pour être laissé d'être simple et pour être sage, Seigneur, pour ta gloire et te glorifier, Seigneur, dans ce monde. Merci, Seigneur. Amen.